jeudi 29 juin 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Voici les titres. Cannes U23, l'équipe nationale de football du Niger de la catégorie, a battu hier à Tanger les Panthers du Gabon sur un score d'un but à zéro. Les impressions de l'entraîneur Dumena sont à suivre dans un instant. La police de Kanché a mis la main cette semaine sur trois réseaux de malfrats œuvrant dans la localité. Le directeur départemental de la police de Kanché nous donne des précisions dans ce journal. Le magazine de ce jour met l'accent sur l'importance de la transhumance transfrontalière pour les éleveurs au Sahel et la nécessité d'aller vers une intégration sous-régionale. Je suis Nefis Adam Sirfo au micro. Victoire hier soir à Tanger de l'équipe nationale de football du Niger, le MENA U23, contre les Panthers du Gabon sur un score d'un but à zéro. C'est dans le cadre de la deuxième journée de la phase des groupes de la CANA U23. Écoutons les impressions de Zakaria Ibrahim, entraîneur du MENA après le match. Il est au micro de notre envoyé spécial Salamatu Kadri.
Nous sommes très heureux d'avoir gagné ce match. Ce n'était pas fait d'avance parce que vous savez, avant même le match, la conférence d'avant-match, on disait que ça va être un match difficile. Et on l'a vu, ça s'est joué sur des petits détails. Et en tout cas, on méritait ce match parce que moi, je pense que dans le contenu, on était bon, meilleur que l'adversaire. Parce qu'on avait envie, n'est-ce pas, envie d'aller vraiment jouer cette qualification pour les Jeux. Moi, je crois que c'est dans le mental que ça s'est passé. Et aussi techniquement, je pense que vraiment notre équipe a été bonne ce soir, comparativement au match contre l'Égypte où on a vraiment beaucoup douté. Donc vraiment ce soir, je pense qu'il y a eu un équilibre et les joueurs ont répondu vraiment à tout point de vue.
Du 25 au 27 juin, la police de Kanché a arrêté trois réseaux de malfrats spécialisés dans les faux billets, la drogue et les vols de téléphones portables. Boubacar Soumana, directeur départemental de la police de Kanché, nous donne des précisions au micro de Habou Serki.
Nous avons interpellé un monsieur qui est ressortissant de cette zone-là, mais qui est domicilié au Nigeria. Nous l'avons interpellé avec une quantité importante de faux billets de banque. La quantité prise avec cet individu s'élève à 3 755 000 francs CFA, en billets de 10 000 francs et 5 000 francs. Le deuxième groupe qu'on a interpellé aussi, c'est un réseau impliqué dans le trafic de drogue à partir du Nigeria. Cette drogue-là, elle est introduite, elle vient à Matamai. Elle continue souvent jusqu'à Azander. Il s'agit de 11 900 comprimés de tramadol. Et toutes ces drogues-là ont été découvertes et saisies par nos éléments lors des différentes opérations de fouilles. Le troisième groupe, c'est un groupe composé d'une douzaine de jeunes. D'autres sont des nationalités nigériennes, d'autres aussi sont des nationalités d'un pays étranger. Ce dernier réseau, il est spécialisé dans le vol des téléphones cellulaires. Voilà spécifiquement les trois groupes.
Actualité toujours en région, le préfet de Gaya a présidé trois élections de chefs de village dans les communes de Bengou et de Bana. Les trois élections de Garim Malam, Garim Mekabi et la tribu Peul de Tungamassara se sont déroulées sans incident. Toutefois, dans cette tournée, la délégation du préfet a mis la main sur des jeunes pris en flagrant délit de vol de bétail. Écoutons Hassimu Abarchi, préfet de Gaya, au micro de Fadel Alou.
Les élections se sont bien déroulées comme à l'accoutumée. Dans les deux premiers villages, il s'agit des candidatures uniques. Tout s'est déroulé dans la grande transparence et à la grande satisfaction des électeurs. Au niveau du troisième village, il s'agit de deux candidats. Et vous voyez le miracle, le candidat gagnant a remporté avec une seule voix de différence par rapport au perdant. Juste après les élections dans cette tribu Peul-là, on a surpris des jeunes hommes qui sont venus prendre des poulets et des animaux. Vous savez, on est à la veille de la fête, donc les malfrats activent pour chercher de quoi fêter. Nous avons pu interpeller 5 à 6 parmi eux en flagrant délit. Et c'est pour ça, chaque fois, nous interpellons la conscience de nos populations de bien vouloir dénoncer les malfrats. Parce que ces gens-là sont avec eux. Ils ont commencé à dire que ce sont leurs enfants, c'est leurs fils, alors qu'ils savaient très bien que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas le premier coup. Mais aujourd'hui, par coup de chance, on a pu les arrêter et on va enquêter pour savoir s'il y a d'autres qui sont tapis de l'ombre.
Parlons éducation, fin d'une série de visites effectuées par le ministre de l'Enseignement supérieur de la région d'Agadez en début de semaine. Cette visite lui a permis d'évaluer l'année académique en cours et les infrastructures réalisées par le Centre régional des œuvres universitaires. Écoutons le professeur Mamoudou Djupo au micro de Anissé Karim.
Sur le plan des enseignements, l'Université d'Agadez a fait un taux de réalisation d'à peu près 90% globalement. C'est une performance. Mais cela masque des difficultés, puisque le taux de réussite est de moins 20%, à peine 16%. Et cela est une contre-performance pour l'université. Pour qu'un taux soit considéré comme acceptable, il faut qu'il avoisine les 84%. L'université compte en tout et pour tout 22 enseignants et de sa création 2014 à aujourd'hui, nous avons découvert l'UIT qui était la dorsale de l'université. L'UIT ne compte que 6 enseignants. Chaque enseignant est chef de son département. 6 départements, 6 enseignants. On ne peut pas appeler ça une université. Nous avons constaté que même au niveau des départements, il y a des déséquilibres avec des étudiants peu conscients de leurs responsabilités civiques qui eux-mêmes vivent dans des conditions exécrables. Les dortoirs sont pires que des dépotoirs.
La mairie de Dogondouchi a tenu la semaine dernière un atelier sur l'assainissement de la ville. Cet atelier a eu lieu avec l'appui de l'UNICEF. Il était destiné à l'intention des élus locaux, des associations des femmes, des jeunes, des chefs coutumiers, des acteurs de la société civile et des animateurs radio. Mais Abdou Meissale explique au micro de Aliou Bawa.
Il s'agit d'innover dans la mise en œuvre de services publics de proximité. Il a été constaté de façon générale qu'une fois élu, le maire est dans son quartier et la population est dans son quartier. Et l'idée ici est donc de renouer le contact entre la population et la mairie de façon générale pour améliorer l'offre de services publics de proximité. Et pour ce cas précis, le Dogondouchi, la mairie a décidé par elle-même d'expérimenter le contrat social autour de l'hygiène et l'assainissement de la ville de Dogondouchi. Dans ce cadre, organiser la mairie avec ses acteurs pour aller vers la population, demander au fait une ou deux, trois questions de façon générale à la population. Est-ce qu'ils savent c'est quoi l'hygiène et l'assainissement? Est-ce que la ville de Dogondouchi est dans les normes d'hygiène et d'assainissement? Ensemble, trouver les voies et moyens pour y parvenir et prendre des solutions pérennes. C'est pour ça que nous sommes venus appuyer la mairie. Et là, nous avons mis des équipes qui vont rentrer en ville, échanger avec les différents acteurs à cœur ouvert, que chacun dise quel est le problème.
La saison des pluies est en train de s'installer au Niger. Selon les services de la météo, des risques d'inondation sont prévisibles cette année à Agadez. Un phénomène qui n'est pas forcément lié aux fortes précipitations, a indiqué Lawangabtia, directeur général de la météorologie. Il est au micro d'Anissi Karim.
Pour ce qui est d'Agadez, on a le cas d'un massif très imposant qui est là, les reliefs, l'Aïr, les Jadou qui sont là. Et ce sont des zones où quand la pluie tombe, généralement l'infiltration est moindre. C'est une question de temps que l'eau ruisselle pour venir, en tout cas dès que ça devient important et continu, l'eau va ruisseler et venir maintenant alimenter les coris, qui sont les terroirs entre autres. Souvent, les gens, quand ils voient les terroirs secs comme ça, ou qu'il y a très peu d'eau, on est tenté de faire tout, on peut rentrer en véhicule et tout ça à n'importe quel moment. Mais je crois que dès maintenant, on a commencé à rester des prestations sur le massif de l'Aïr parce que le front tropical est cette année de façon exceptionnelle. Au début du mois de juin est parti jusqu'au plateau de Jado et donc la mousson est présente pratiquement sur l'ensemble de la région d'Agadez et donc tout ça fait qu'il y a des risques déjà qu'effectivement on pourrait assister à des écoulements importants qui vont commencer tôt au cours de l'hivernage.
Retour ici à Niamey pour parler de cet atelier de renforcement des compétences en économie et développement organisé par le bureau de la Banque mondiale la semaine dernière. L'objectif était de former une trentaine de journalistes aux techniques de traitement de l'information, des données et des chiffres liés à l'économie. À la suite de cet atelier, un réseau des journalistes pour l'économie et le développement a été créé. Le président du réseau, Bras Suleiman, nous donne des détails au micro de Fanta Chamson.
Nous n'avons pas beaucoup de journalistes aujourd'hui spécialisés sur les questions économiques et même les développements. Donc c'est important aujourd'hui, avec cette formation, de voir comment il faut continuer à renforcer les capacités des journalistes, à les outiller pour qu'ils comprennent mieux les questions économiques. Ce premier pas a été fait pour le moment avec la Banque mondiale. On va aussi continuer à scruter, à voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que dans nos reportages, si effectivement un journaliste traite de cette question, on sente bien qu'il maîtrise effectivement la question économique. Mais au-delà, les journalistes ont aujourd'hui une entrée au niveau de la Banque mondiale. Si tu as quelque chose, tu sais à qui t'adresser pour avoir l'information.
La direction régionale de l'élevage de Maradi sensibilise la population sur le respect de l'hygiène, surtout après la fête de Tabaski. Pour la direction des ressources animales, certaines maladies très dangereuses circulent dans la sous-région. Il s'agit notamment du charbon bactérien qui fait des ravages chez nos voisins. Pour Dr Boubacar Issa, la vigilance doit être de mise. Il est au micro de Mohamed Maman.
Actuellement, on a certaines maladies qui circulent dans notre pays et surtout dans les pays voisins. Et on sait que les problèmes de maladies traversent facilement les frontières, surtout avec le Nigeria. Il y a tellement d'échanges entre nous. On a eu des informations par rapport au charbon bactéridien, qu'on appelle aussi anthrax, qui circule au Nigeria, au Ghana et un peu au Burkina. Donc nous, de façon officielle, on n'a pas reçu l'information du ministère de l'élevage. Mais quand même, on s'est dit qu'on doit être très vigilant parce que c'est une maladie dangereuse. Chaque antibiotique a ce qu'on appelle un délai d'attente. Les délais d'attente, là, il faut qu'on les respecte. Parce que si on ne les respecte pas, ça peut conduire à ce qu'on appelle la résistance aux antimicrobiens. On attire vraiment l'attention des populations par rapport à ça. N'utilisez pas les antibiotiques parce qu'il reste moins de 10 jours et la plupart des antibiotiques ont à peu près 2 semaines ou même plus de délai d'attente.
À présent, le magazine du journal. La pratique de la transhumance transfrontalière a longtemps constitué pour la majorité des éleveurs sahéliens une stratégie efficace d'adaptation aux aléas climatiques et un système d'exploitation des ressources pastorales face aux crises fourragères saisonnières. Et cela en tirant parti de la diversité écologique et de la complémentarité entre les différentes zones agroclimatiques des pays. Mais ce qui va sauver l'Afrique, c'est une vraie intégration, explique Ibrahim Koulibaly, président du réseau des organisations paysannes d'Afrique de l'Ouest. Il est interrogé par Mokhtar Hamadou.
Cette complémentarité entre le Sahel et les régions sud a toujours existé parce que, vous savez, on n'a pas les moyens d'acheter l'aliment bétail pour les 20 millions de bovins qui circulent dans cet espace-là. Personne ne peut les nourrir artificiellement. Donc, on ne peut les nourrir qu'avec les pâturages naturels. Et ces pâturages naturels existent dans l'espace. Mais c'est qu'on a une sorte de schéma d'intégration. Mais on n'a pas une vraie intégration. Dans le cœur, l'intégration n'existe pas. Les gens l'ont dans le discours. Oui, il y a des fonctionnaires qui sont dans les institutions qui tournent. Et il y a des réunions, des milliers de réunions qui sont organisées. Mais on ne voit pas d'avancée dans l'intégration. Vous savez, ce qui va sauver l'Afrique, c'est l'intégration, une vraie intégration, pas une coquille d'intégration. Donc cette intégration partira du fait qu'on dépassera cette intégration des chefs d'État pour aller vraiment pour une vraie intégration des communautés, une vraie intégration des populations.
Comment faire pour que la transhumance transfrontalière soit une véritable réalité dans nos pays au Sahel?
Les Béninois doivent comprendre que les Nigériens, les pasteurs nigériens ne sont pas leurs ennemis. Au contraire, le bétail nigérien pourrait amener des tonnes de fertilisants pour les sols du Bénin. Et c'est l'intelligence qui doit primer. C'est la même chose pour le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Ghana, tout cet espace. Ces pays qui ont 2 saisons de pluie, alors que nous, on n'a que même pas 3 mois de pluie par an, nous, sahéliens. Donc, si l'intelligence prévaut, si des dialogues francs sont faits, si des espaces, des vrais investissements bien ciblés, en préparant des gîtes d'État pour qu'il n'y ait pas de destruction sur les passages, ou des pâturages soient bien délimités, je vous assure que tout le monde y gagne.
Quel est l'avenir de l'élevage au Sahel dans un contexte où pratiquement les éleveurs sont en train d'être dépouillés de leurs animaux?
Cette situation est extrêmement triste. Avec la crise, vous savez, c'est des millions de têtes de bétail qui sont en train d'être accaparées, pris à leurs propriétaires, en les rendant très pauvres, plus pauvres qu'ils ne le sont déjà. Il faut qu'on arrête cela, il faut qu'on trouve des solutions très rapides. Parce que si les communautés d'éleveurs perdent leur seul capital, qui est leur troupeau, je vous assure, l'insécurité ne va pas s'arrêter. Donc c'est une question qui a un lien étroit avec la question de l'instabilité dans la région aujourd'hui. Il faut qu'on trouve des moyens rapides pour qu'on puisse sécuriser le bétail qui reste entre les mains des communautés d'éleveurs, qui puissent garder ces cheptels-là. Parce que l'élevage, c'est un des secteurs les plus importants dans les économies sahéliennes. Donc si l'élevage est perturbé, c'est tout le Sahel qui va le ressentir. C'est ça qui assure notre sécurité alimentaire par la production du lait, de la viande et par la fertilisation des sols. Il y a énormément d'enjeux économiques. Donc pour moi, il faut que véritablement les États prennent cette question à bras le corps, qu'on crée des espaces de stabilisation pour que le bétail ne puisse pas être accaparé.
Studio C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, le forum en Hausa avec pour thème quels sont les défis liés à l'éducation des enfants handicapés visuels et auditifs à Zender et quelles sont les perspectives. C'est un forum présenté par Moustapha Mamassani. Et n'oubliez pas, réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement et le reste des productions sur l'application Studio Kalungu disponible sur Play Store.